Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Duwar avec Émilie Lapran au studio. Bonjour.
Bonjour.
Émilie Lapran, vous êtes ici au nom de DiWatt, cette structure liée à l'énergie et qui est présente donc aux 3 rues Notre-Dame. Et vous êtes là pour nous annoncer aussi un rendez-vous d'une permanence qui aura lieu à la Carline le 19 novembre de 10h à midi, avec donc cet accès aussi sur l'énergie renouvelable et principalement lié à l'électricité. Donc, qu'est-ce que vous proposerez ce mercredi 19 novembre à la Carline ?
Oui, bonjour, merci de nous recevoir. Donc effectivement, DiWatt, on va tenir une permanence donc le mercredi 19 novembre à la Carline, au magasin de producteurs Adi, de 10h à midi. L'idée en fait, c'est de venir rencontrer, parler avec les gens directement. On est une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable. On a maintenant quelques années, on est né aux alentours de 2017-2018 et on est très fortement lié au territoire du Diwa et les projets qu'on porte, les gens qui sont sociétaires de DiWatt évoluent assez rapidement et du coup l'idée c'est de continuer à être en lien directement avec les curieux et les curieuses qui pourraient se demander ce qu'est DiWatt et puis si le sujet de l'énergie, d'une énergie citoyenne locale les intéresse, de voir aussi comment eux ils peuvent agir très directement. Et c'est ça un peu l'idée d'être présent pendant 2 heures, du coup le mercredi 19 novembre matin à la Carline.
Alors qu'allez-vous proposer concrètement à toute personne qui viendra vous voir ?
On peut proposer plusieurs choses. Peut-être déjà, je pense que vos auditeurs auditrices nous connaissent un petit peu, mais pour rappeler, aujourd'hui, nous, on réunit environ 230 sociétaires. Les sociétaires dans la coopérative DiWatt, ça peut être des habitants, des habitantes de la vallée de la Drôme, ça peut être des entreprises, ça peut être des communes, c'est aussi les intercommunalités. Et puis, nous, on a des sociétaires qu'on appelle extraterritoriaux, ça peut être des investisseurs ou simplement des personnes qui nous soutiennent. Et ce que fait la coopérative en gros, c'est de se saisir de ce sujet de l'énergie qui peut être un sujet parfois très très technique mais qui est aussi un sujet pour nous très politique qui amène des questions environnementales, sociales. Donc c'est aussi sortir l'énergie que de quelque chose de trop scientifique, technique et de redonner un peu un pouvoir d'agir aux gens. Et ça, pour nous, ça passe par sur le territoire de la vallée de la Drôme et historiquement sur le Diwa, avoir des actions pour maîtriser la demande en énergie, parce que évidemment, la meilleure énergie, on le dira jamais assez, est celle qui n'est pas consommée. Et ça, c'est un travail, par exemple, qu'on a fait à l'avant-poste à Di, en travaillant sur la rénovation thermique du bâtiment. Et puis, c'est aussi aller vers la production d'une énergie qui est locale, qui est citoyenne et qui est renouvelable. Et aujourd'hui, pour nous, ça passe à travers. Alors, vous avez cité l'électricité. Effectivement, on a 66 projets photovoltaïques en exploitation. Donc, concrètement, c'est des panneaux photovoltaïques qui sont sur des toitures, par exemple d'écoles, par exemple chez des particuliers, sur des hangars agricoles, sur des entreprises, des usines et des industries sur le territoire. Mais c'est aussi la chaleur renouvelable, DiWatt est un peu moins connu pour ça, mais on a aujourd'hui 7 chaufferies, soit granulées, soit de bois déchiqueté, voilà. Et le côté chaleur renouvelable est aussi très important quand on parle d'énergie, puisque on se chauffe, là c'est la saison hivernale qui commence, donc on sait qu'il faut se chauffer. Voilà, et du coup, l'idée c'est d'être présent à la Carline le 19 novembre pour se représenter pour ceux qui nous connaîtraient pas ou qui auraient envie d'en savoir plus. Et puis après, vous me demandiez du coup qu'est-ce que les gens peuvent faire, qu'est-ce qu'on aurait à proposer. Je pense vraiment la première proposition, c'est d'abord de s'intéresser à ce sujet, à l'énergie, parce que en vrai, ça touche le quotidien de tout le monde, que ce soit dans notre travail, dans nos maisons, dans nos loisirs. Il y a besoin d'énergie en général pour beaucoup beaucoup de choses. Et donc de déjà, ce qu'on apporte, c'est peut-être des informations sur l'énergie et les énergies renouvelables citoyennes. Et puis après, souvent, pour ceux qui veulent agir, la première question, c'est une des premières questions qu'on a, c'est comment je fais pour mettre des panneaux photovoltaïques sur mon toit? Alors là, on peut présenter différentes choses là-dessus, mais on s'arrête pas à ça. Vous pouvez très bien être locataire et du coup pas avoir de toiture et vous dire que vous avez envie de faire quelque chose par rapport à ce sujet de l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant 2023, on propose par exemple à tout celui qui le souhaite, qu'on soit une entreprise, une commune, un particulier, d'acheter une partie de son électricité à des watts. Ça veut dire que vous avez concrètement, c'est très simple, ça ne demande aucune intervention chez vous. Vous pouvez acheter une partie de votre électricité à des watts et vous avez deux contrats d'électricité. Vous gardez le contrat que vous avez d'habitude avec Engie, avec Enercop, peu importe quel est votre fournisseur. Et puis, vous signez un deuxième contrat avec des watts et il y a une partie de l'électricité que vous allez consommer qui va provenir d'installations de des watts sur le territoire et qui sont du coup de l'électricité renouvelable, citoyenne et locale. Ça, c'est une manière, par exemple, c'est une proposition que la coopérative fait. Et puis, il y a une autre proposition qui peut être... alors là, il faut avoir un peu d'argent à investir. Mais si vous avez de l'argent à investir, en fait, c'est de comment dire ça, un peu donner du sens à votre argent, si ces questions d'énergie vous parlent. Et vous pouvez, du coup, en devenant sociétaire de la coopérative, vous pouvez placer une partie de votre épargne dans la coopérative. Et ça nous permettra, nous, avec vous, évidemment, parce que vous deviendrez sociétaire de la coopérative. Du coup, ça nous permettra de continuer à financer l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du territoire, des chaufferies bois, de s'intéresser aussi peut-être à l'éolien citoyen, de continuer la rénovation thermique de bâtiments.
Sur le site internet de DiWatt, il y a donc l'énumération des participants, de cette corrélation autour de ce collectif. Vous parlez donc de ces projets en exploitation 66, dont la Carline.
La Carline, ce qui est sûr, c'est que la Carline est sociétaire de DiWatt, donc fait partie de notre coopérative. Il y a vraiment des liens assez forts entre la Carline et DiWatt parce que on se retrouve sur pas mal de choses. Et donc on est sociétaire de la Carline et la Carline est sociétaire de DiWatt. Et du coup, la Carline consomme son électricité, une partie de son électricité à DiWatt, ce que je nommais, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Pour la partie chaufferie, les chaufferies qu'on a sur DI, c'est celle de l'école Notre-Dame. Celle de l'avant-poste et celle de l'espace Barral. Mais du coup, je pense que la Carline, si la Carline a une chaudière à granulés, c'est elle-même qui l'a installée. Elle a fait ça en autonomie. Voilà.
Comment se présentera cette rencontre au sein de ce lieu qu'est la Carline, qui est comme avant tout un commerce?
Oui.
Une place est dédiée pour cet échange?
Oui, l'idée en fait c'est de pouvoir accueillir les personnes qui seraient intéressées à l'entrée du magasin en fait, et d'avoir un petit espace dédié avec quelque chose d'assez simple, hein, une table et deux chaises, et nous il y aura deux bénévoles qui seront présents pour des watts pour du coup échanger avec les personnes qui seraient intéressées.
Alors, de quoi devra-t-elle se documenter, toute personne qui viendra voir cette permanence?
Elle peut venir, j'ai envie de dire, les mains dans les poches ou avec ses questions. Si vous avez envie, vous pouvez avant faire un tour sur notre site internet. Donc, c'est www.dwats.fr, donc dwats.fr. Comme ça, si vous connaissez pas ou s'il y a des choses qui vous intriguent, vous pouvez commencer à regarder, à lire et avoir des questions, on va dire, précises. Mais vous pouvez vraiment venir aussi avec votre simplement votre curiosité. Et nous, on fera notre possible pour répondre aux questions des unes et des uns.
Alors, il y a cette saison d'hiver qui arrive, ce chauffage qui redémarre. Quel délai peut-on prévoir pour une installation que vous proposez au sein d'un lieu de particulier, par exemple ?
Pour la partie chaleur renouvelable, pour les chaufferies. Alors nous, la coopérative va travailler sur cette partie chaleur renouvelable plutôt à des échelles de collectif. Je le citais, par exemple, on a équipé l'école Notre-Dame qui est au centre-ville de Die avec une chaudière à granulés. L'avant-poste qui est un bâtiment assez proche de l'école également avec une chaudière à granulés. Voilà, on a d'autres exemples dans le DIWAP, par exemple la résidence pour seniors Les Genêts qui est à Marignac en DIWAP, qui elle est une chaudière à bois déchiqueté. Et puis également la chaudière, par exemple, du monastère de Sainte-Croix, qui est à bois déchiqueté. Je cite des exemples un peu différents pour vous montrer les types d'espaces qui peuvent être équipés par des watts. Pourquoi des watts se focalisent sur plutôt des espaces assez grands et des espaces, on va dire, collectifs comme école, lieu d'accueil du public, résidence pour seniors. C'est simplement parce que sur notre territoire, on a la chance d'avoir un service public intercommunal de l'énergie qui est bien doté et où, du coup, il y a des aides. Alors ça, c'est quelque chose qui a évolué ces derniers mois, mais en tout cas, jusqu'à assez récemment, il y avait beaucoup d'aides publiques pour aider les particuliers qui souhaitaient s'équiper avec des poêles à bois. Donc, du coup, nous, en tant que coopérative, on s'est dit que c'était pas là où on allait avoir le plus on n'allait pas apporter grand chose si on travaillait sur la question de la chaleur avec les particuliers. Donc, j'incite les particuliers qui s'intéresseraient sur la question de s'équiper en poêle à bois à aller voir le service public intercommunal de l'énergie. Ils peuvent se rapprocher de l'intercommunalité pour ça. Et du coup, nous, sur notre partie, évidemment, en fait, par exemple, le monastère de Sainte-Croix est intéressé pour équiper ses bâtiments pour se chauffer au bois, ou des bâtiments plus petits comme l'avant-poste, par exemple, le premier travail qu'on fait, c'est de d'abord, sur place, mesurer les besoins en fonction des usages qu'il va y avoir à l'intérieur des bâtiments et évidemment de la taille des bâtiments, du type d'isolation qui est déjà existante. Et après, tout le travail, il est effectivement d'arriver à bien dimensionner pour que ce soit le plus pertinent par rapport au bâtiment et au lieu, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, la plus grosse des chaudières qu'on a, c'est celle du monastère de Sainte-Croix, qui est une chaudière de 110 kilowatts. Et on est en train de construire quelque chose qui est, on va dire, le cran au-dessus en termes de dimensionnement d'une chaudière, même si elle est collective. C'est un réseau de chaleur et ça, c'est un travail qui est en cours aujourd'hui. C'est bientôt la fin des travaux. On sort du territoire du DIWAM et on est à Oust-sur-Scie avec un réseau de chaleur, du coup, communal. Donc la commune de Oust-sur-Scie a confié à la coopérative, du coup, l'étude, le financement et bientôt, quand ce sera mis en service, la gestion de son réseau de chaleur, du coup, qui est un réseau de chaleur qui va alimenter 7 bâtiments communaux, la mairie, des écoles, la police, la médiathèque, le gymnase, voilà.
Tous ces bâtiments sont dans un secteur assez limité ou alors c'est assez expansif ?
Alors là, je crois que le réseau de chaleur fait 250 mètres. Du coup, c'est pour vous donner une idée. Et après, ça, c'est aussi pareil, c'est comme les chaufferies, ça se dimensionne en fonction des besoins. Et là, l'idée, c'était de raccorder, les bâtiments qui devaient être raccordés au réseau de chaleur ont été ciblés et le réseau de chaleur a été dimensionné en fonction de la distance entre les bâtiments et de la taille également des différents bâtiments.
Cela implique aussi une infrastructure souterraine pour cet acheminement, un investissement donc conséquent aussi pour cette mise en place.
Oui. Alors, l'ordre d'idées de l'investissement qui a été réalisé, il va être grossier pour ma part, parce que j'ai pas révisé les chiffres avant de venir précisément là-dessus, mais c'est aux alentours de entre 700 et 800 000 euros d'investissement. On a des compétences aussi, nous, en interne, pour faire que une partie de cet investissement puisse être notamment pris en charge par des subventions, puisqu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un fonds chaleur renouvelable, qui est porté par l'ADEME au nom de l'État. Et sur le territoire de la vallée de la Drôme, en fait, existe ce qu'on appelle un contrat chaleur renouvelable qui permet du coup de faire des études, ce qu'on appelle des études d'opportunité. Donc ça, c'est quelque chose qui est porté par les trois intercommunalités de la vallée de la Drôme. Et c'est quelque chose d'important à mentionner ici, parce que ça peut intéresser différents auditeurs et auditrices. Concrètement, on a la chance, sur l'ensemble de la vallée de la Drôme, de bénéficier de ce contrat chaleur renouvelable. Ça veut dire que pour toutes les structures qui disposent d'un numéro de SIRET, donc ça peut être évidemment des entreprises, mais ça peut être différents types de collectifs, bâtiments publics, bâtiments privés, mais aussi dans les bâtiments privés, par exemple des SCI, des sociétés civiles immobilières, qui peuvent bénéficier ce qu'on appelle d'études d'opportunité gratuitement. Ça veut dire qu'à travers ce contrat chaleur renouvelable, en fait, les personnes qui s'interrogeraient pour équiper de manière collective leur bâtiment sur la chaleur, en fait, ils peuvent bénéficier en tout cas de l'étude de manière gratuite. Et pour ça, il faut s'adresser à l'intercommunalité.
Il y a aussi, donc, vous parlez de cette collectivité, notamment la ville de
Oust-sur-Scie. Ouais.
Est-ce qu'il y a des perspectives aussi sur le Haut-Diois ou dans le Diois avec d'autres villages en discussion, en réflexion?
Oui, il y a eu un gros travail fait avec la ville de Die, et pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté de la ville et de notre volonté, le réseau de chaleur sur la ville de Die n'est pas simple à mettre en place. Il y a des questions notamment de respect en fait lié aux enjeux archéologiques autour de la ville, et puis aussi autour de l'emplacement précis que pourrait avoir l'unité de production de chaleur. Et du coup, aujourd'hui, il y a une étude assez approfondie qui a été faite et qui, pour le moment, n'a pas encore abouti sur un projet concret. Mais en tout cas, au niveau de la ville de Die, et pour nous, ça a été des préoccupations importantes ces dernières années. Il y a des réflexions qui peuvent être menées, effectivement, avec d'autres municipalités. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses assez abouties pour pouvoir peut-être les signaler. Il y a aussi une réflexion qui est beaucoup plus large, qui est menée notamment à l'échelle de l'intercommunalité du Diois, qui est de se dire pourquoi ça intéresse la, peut-être pour revenir à ça, pourquoi nous en tant que coopérative citoyenne ça nous intéresse de développer la chaleur renouvelable et notamment le bois déchiqueté, et donc faire qu'il y ait plus de chaufferies qui sont alimentées en bois déchiqueté sur le territoire. C'est parce que c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Aujourd'hui, notre chauffage, il provient notamment de manière globale, qu'on soit particulier, qu'on soit entreprise, qu'on soit collectivité, il peut provenir en partie encore beaucoup d'énergie fossile, que ce soit du fuel, que ce soit du gaz. Et en tant que coopérative d'énergie citoyenne, nous, on essaye de trouver des alternatives à ces énergies fossiles. Et pour le chauffage, le bois énergie est une alternative qui est assez intéressante. Il peut y avoir des critiques, évidemment, contre le bois énergie. Il y a toujours des critiques vis-à-vis de toutes les énergies, de toute façon. Il s'agit de faire des choix. Et l'idée, c'est que ces choix-là, ils soient faits de la manière la plus intelligente possible par rapport au territoire et par rapport aux enjeux que les différents acteurs du territoire ont identifiés. Et du coup, de notre côté, on creuse vraiment cette question du bois énergie, parce qu'on voit aussi que c'est une ressource en local, notamment dans le territoire du Diois. Une grosse partie du territoire est forestier. Et donc du coup, il y a une ressource. Il s'agit de évidemment de pas du tout s'attaquer à la forêt pour couper et faire des coupes rases et avoir des chaufferies partout sur le territoire. Il s'agit vraiment pas de ça. Au contraire, il s'agit de se dire ben du coup comment ce territoire forestier, on peut y être attentif en termes d'enjeux de biodiversité, en termes aussi d'enjeux économiques. Comment on fait pour faire que les emplois liés à la forêt, que ce soit le bûcheronnage, la gestion forestière, soient, enfin, c'est des emplois qui se délocalisent pas. Donc, comment on fait du coup pour être sûr que ces emplois soient bien consolidés? Et du coup, l'idée, c'est justement si nous on a une motivation à se dire que on veut plus de chaufferies bois parce que ça remplace des chaufferies fuel, des chaufferies gaz, et que c'est un intérêt en termes de gaz à effet de serre, de lutte contre le réchauffement climatique. Et ben, ça a aussi un intérêt par rapport au territoire parce que on peut penser une filière économique avec les acteurs du territoire. Les bûcherons, les gestionnaires forestiers, etc., les transporteurs. Ça a un intérêt aussi pour ben justement l'entretien de la biodiversité. On n'a pas envie que ce soit fait n'importe comment dans les parcelles forestières. Et du coup, de penser, on va dire, une filière où on peut aller jusqu'à la parcelle et tracer la manière dont cette parcelle elle est gérée. Et nous, si on a envie de développer en fait un approvisionnement de bois en local, on veut être sûr que la gestion forestière elle soit faite ce qu'on appelle en sylviculture douce sur ces parcelles-là. Et du coup, il y a toute une réflexion qui est portée notamment avec l'intercommunalité sur l'idée d'aller vers la création d'une plateforme forestière qui permettrait en fait de déchiqueter le bois en local et donc de consolider aussi du coup l'approvisionnement local pour ces chaufferies qu'on développerait et de consolider les emplois qui sont faits, qui sont en amont de la plateforme, donc le bûcheronnage, la gestion forestière, et aussi ben, du coup de s'assurer que la manière dont la gestion forestière est faite réponde à ces critères environnementaux et sociaux qui sont importants pour nous.
Il existe, je pense, aussi des collectifs tels que le vôtre, et notamment sur l'exploitation forestière dans le Diois, je crois qu'il en existe, ou du moins dans la Drôme. Est-ce que ce sont des partenaires éventuels aussi pour cette mise en place de cette énergie liée au bois, par exemple?
Oui, bien sûr. Nous, on essaye on travaille vraiment le plus possible avec les collectifs, les groupes, les entreprises qui sont déjà sur les différents domaines qui nous intéressent. Typiquement, là, on travaille avec les plateformes forestières qui existent déjà, enfin de bois déchiqueté qui existent déjà. Et l'idée, c'est si une nouvelle plateforme est créée, c'est qu'elle soit complémentaire et qu'elle vienne pas faire concurrence avec les plateformes déjà existantes. Et avec par exemple l'association des communes forestières qui du coup est un acteur important dans le domaine de la gestion forestière et on travaille en réseau à une échelle régionale et nationale avec les autres acteurs qui comme nous au niveau citoyen s'intéressent à la question de la chaleur renouvelable et du bois énergie.
L'important pour vous c'est quand même le circuit court.
Oui, ça c'est un vrai sujet, effectivement. Le circuit court, ben, pour différentes raisons en fait, parce que quand on est en circuit court, les retombées pour le territoire, à la fois au niveau économique, si on parle d'emploi dans la filière forestière, à la fois en termes social, consolider ces emplois-là, avoir des retombées vraiment, enfin, socialement, se dire que on sait comment la parcelle elle est gérée et être sûr que ça convienne aux acteurs du territoire, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important, quoi. Et du coup, ce circuit court, effectivement, il a vraiment du sens et il vient compléter, donner du corps au projet de la coopérative.
Justement, j'amène cette idée par rapport à cette polémique qui est apparue depuis quelques mois, notamment avec la centrale thermique de Garvanes, qui est demandeuse de bois de chauffage. Et il y a des prospections qui sont effectuées sur certains villages du Haut-Diois, d'où un certain soulèvement de la population contre cette exploitation. Quel est votre regard, justement? Est-ce que vous vous êtes renseigné un peu sur cet aspect-là? Et en contrepartie, que proposez-vous vous-même par rapport à cette énergie du bois ?
Eh ben, je pense que c'est des choses, je vais les redire un peu différemment, mais que j'ai déjà présentées. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, une grosse partie du cubage du bois qui est bûcheronné aujourd'hui dans le Diwa est valorisée complètement à l'extérieur du territoire, quoi. Et la centrale de Gardanne capte une grosse partie de ce cubage-là. Et pour nous, ça fait sens de se dire que on relocalise en fait. Déjà, il y a vraiment toujours cette question de si on coupe du bois, enfin c'est pour quoi faire quoi. Si c'est pour se chauffer, est-ce que c'est plus intéressant que si c'est pour faire du carton? Enfin voilà, ça c'est des vrais sujets. Et du coup, si c'est pour se chauffer, c'est pour se chauffer comment, dans quel type de bâtiment? Est-ce que les bâtiments ils ont été rénovés ou pas? Il y a toute une réflexion à avoir vraiment à chaque fois sur l'usage, quoi, le pourquoi effectivement on veut couper du bois, et après sur le comment. Et du coup, dans le comment, il y a combien on prélève sur une parcelle, est-ce qu'on permet à la parcelle de se renouveler, etc. Et du coup, ça fait partie de toute cette approche sur la sylviculture douce. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on veut porter, quoi.
Ce qui était mis en avant aussi, c'est ce manque de transparence dans ce genre de démarche, notamment avec cette centrale de Gardanne. Est-ce que pour vous aussi, la transparence est importante avec la population d'Ivoise pour connaître aussi cette filière et ce respect aussi, cette gestion raisonnée du bois?
Alors, c'est plus que important, ça fait partie de la manière de fonctionner. En fait, nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire que dans la forme même de la coopérative, l'idée, c'est que les acteurs du territoire, que ce soit des habitants, que ce soit des entreprises, que ce soit des communes, encore une fois, tout le monde a sa place. Tout le monde peut devenir sociétaire de la coopérative. De manière très concrète, c'est quelque chose qui coûte 50 euros, la part sociale, et que vous ayez une part sociale ou que vous en ayez 10, 15 ou 20 ou 30 ou 150, si vous avez très très envie vous avez le même poids, vous pouvez vous exprimer de la même manière à l'intérieur de la coopérative, c'est une personne égale une voix. Ça, on l'a simplement un peu pondéré dans les collèges pour donner de la place, une place peut-être un peu différente, notamment aux communes et aux collectivités territoriales que sont communes et intercommunalités. Mais le principe de base de la gouvernance d'une coopérative, c'est une personne égale une voix. Et le droit d'entrée, entre guillemets, il est de 50 euros. Et donc, du coup, tout sociétaire de la coopérative... peut-être que ce n'est pas suffisamment facile d'y rentrer dans la coopérative, mais c'est quand même une démarche qui est assez ouverte. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on est sociétaire, en fait, le sujet qui nous intéresse, c'est le bois, on participe au groupe de travail bois et on a son mot à dire comme n'importe quel autre sociétaire. Le sujet qui nous intéresse, c'est l'éolien, pareil, on participe au groupe de travail éolien et on a son mot à dire comme n'importe quel autre sociétaire. Et nous, on demande que ça, en fait, que les gens ils participent à la vie de la coopérative. Et la coopérative, elle est faite, elle est pensée pour que n'importe quel habitant et habitante du Diwa qui est intéressé par un de ces sujets puisse venir y participer, en fait. C'est vraiment fait pour. Donc l'idée, c'est pas du tout de cacher, c'est pas du tout d'avancer masqué, c'est au contraire d'associer les gens le plus possible.
Vous citiez en début d'émission le nombre de sociétaires à l'heure actuelle, qui est de déjà ?
Environ 230 sociétaires.
Voilà, et ces sociétaires ont permis de pouvoir récolter plus d'1,8 million d'euros. Pour vous, cette nécessité de financement permet aussi peut-être de préparer une certaine autonomie énergétique de territoire pour se parer aussi à cet avenir. Hein. On préconise l'énergie nucléaire, mais qui est quand même tributaire aussi de cette eau qui permet ce refroidissement qui tend à petit à petit disparaître ou être même impraticable puisque l'eau est réchauffée au détriment de la flore et de la faune aquatique. Donc voilà, c'est un intérêt aussi de territoire d'accéder à une certaine autonomie. Est-ce que ça, c'est une perspective raisonnée?
Alors, il y a plein de choses à dire par rapport à votre question. Le projet de la coopérative, en fait, c'est vraiment de pousser la production d'énergie renouvelable en local et la maîtrise de l'énergie en local. Ça, c'est clairement le projet de base de la coopérative. Il s'inscrit dans une démarche du territoire qui est plus large, qui existe, qui nous a complètement préexisté et qui est portée notamment par les élus locaux à l'échelle intercommunale, notamment des trois intercommunalités de la vallée. Et ils ont concrétisé ça, les élus locaux, à travers une démarche qui s'appelle TEPOS. TEPOS, ça signifie territoire à énergie positive. L'idée, en gros, c'est faire que ce territoire de la vallée de la Drôme, donc du Haut-Diois jusqu'à l'embouchure entre la Drôme et le Rhône du côté de Livron-Loriol, soit donc un territoire à énergie positive. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on produit suffisamment d'énergie de manière renouvelable et en local pour répondre aux besoins des habitants et des acteurs de ce territoire qu'est la vallée de la Drôme, voire qu'on en produit même plus et qu'on peut l'exporter à d'autres territoires qui n'arriveraient pas à produire suffisamment pour leurs propres besoins. Par exemple, des territoires densément peuplés comme Valence ou Lyon. Voilà. Avec toujours, c'est très important de le rappeler, même dans la démarche territoire à énergie positive, toujours le volet baisse de la consommation. L'idée, c'est pas de produire plein d'énergie pour pouvoir en vendre à Valence et à Lyon. Non. On a une vraie réflexion sur la baisse des consos. Il faut baisser les consommations, ça c'est évident. Mais même quand on fait un vrai travail qui est vraiment difficile sur la baisse des consommations, il faut quand même continuer à produire de l'énergie. Il nous reste des besoins en énergie pour se déplacer, pour se chauffer, pour nos appareils électriques, etc. Et du coup, évidemment, nous, ce qu'on a envie de pousser, c'est plutôt le modèle des énergies renouvelables locales que celui du nucléaire. Et ça, c'est vraiment pas que nous qui le disons. De toute façon, il faut y aller sur les énergies renouvelables. Et du coup... À la fois, il y a répondre à nos propres besoins, mais aussi aller au-delà de ça, avoir cette réflexion un peu plus, d'échange avec d'autres territoires. Et effectivement, pour ça, en fait, il y a besoin d'argent, il y a besoin de collecter de l'argent. Donc, sur les 1 800 000 qui aujourd'hui ont pu être investis dans des watts, il y a une bonne partie qui vient des acteurs du territoire, mais il y a aussi une partie qui vient de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et ainsi que d'Énergie Partagée Investissement, qui sont les trois gros investisseurs qui, depuis 2020, ont investi depuis 2000. Excusez-moi, un peu après 2020, ont investi dans la coopérative et qui ont amené aussi, vraiment ont permis à la coopérative de passer un cap, de passer une échelle. Et aujourd'hui, on continue à vouloir mobiliser en fait en local de l'épargne pour différentes raisons. D'abord, peut-être ce sur quoi il faut revenir, c'est que pour pouvoir développer des nouvelles toitures photovoltaïques, des nouvelles chaudières bois, continuer sur la rénovation thermique de bâtiments, en fait, on doit disposer au moins de 25% d'apport par rapport à un projet. Là, on prenait l'exemple de Oust, donc qui est un projet entre 700 et 800 000 euros d'investissement. L'idée, c'est que évidemment, on va pas tout pouvoir porter en propre l'investissement et qu'on va aller voir des banques pour des prêts pour pouvoir financer ces projets-là. Mais avant d'aller voir les banques, en fait, il faut qu'on ait à minima 25% de la somme du projet global. Donc du coup, on a besoin, nous, d'avoir au sein de la coopérative de la trésorerie pour pouvoir avoir cet apport-là, à hauteur de 25% des projets. Et on a plutôt envie de faire que l'apport de la coopérative, en fait, il vienne d'habitants, d'habitantes, d'entreprises, de communes du territoire. Parce que, en fait, si moi, en tant qu'habitante, j'investis dans la coopérative des Watts, DWAT, en fait, va rémunérer cet argent. Aujourd'hui, on le rémunère entre 3 et 5%. Et donc, du coup, on a plutôt envie de donner ces 3 et 5% à des acteurs du territoire. Parce que ça, c'est pareil, ça fait partie de ce cercle vertueux qu'on a envie de porter, qui est de se dire, les énergies renouvelables, ça a des retombées concrètes, locales. Une partie de la valeur de ce qu'on fait, en fait, elle revient aux habitants et aux habitantes du territoire. Et concrètement, si demain, moi, j'investis 1 000 ou 2 000 euros dans la coopérative des Watts, il y aura à hauteur de 3 et 4% de ces 1 000 euros qui vont me revenir et qui seront payés globalement par la coopérative, qui me seront rémunérés, quoi. Et ça, pour nous, c'est vraiment une manière de relocaliser la valeur qui est produite par ce secteur des énergies renouvelables, qui souvent est quand même vu comme quelque chose de très lointain, souvent porté par des gros acteurs, et on a du mal à faire lien, quoi.
Il y a aussi donc cet apport d'organismes de prêts, de financeurs. Parmi ceux-ci, il existe aussi d'autres alternatives, notamment la NEF. Est-ce que ça, c'est aussi une solution d'épargne collective pour justement ce développement?
Concrètement, nous, on sollicite évidemment la NEF en tant que banque. En fait, elle fait partie des banques qu'on sollicite pour compléter, une fois qu'on a les 25% de montant d'un projet, donc qui est notre apport en propre en tant que coopérative, on va aller solliciter des banques. Et la NEF fait partie, effectivement, des banques qu'on va solliciter pour pouvoir financer, du coup, les 75% restants des projets.
Autant le bois a une valeur commerciale, hein, je ne sais pas comment définir celle-ci, on parle de stère, comment se définit justement une quantité de bois de consommation de chauffage?
Eh bien, ça va être la consommation du coup comme une facture d'électricité. De manière concrète, c'est les kilowatts de chaleur que vous allez consommer. Par exemple, à l'avant-poste, DWatt va envoyer une facture en termes de kilowatts de chaleur. Et donc, de manière assez simple, à la sortie de la chaudière, il va y avoir un compteur qui va permettre de comptabiliser la consommation qui est faite dans le bâtiment de l'avant-poste. Et nous, on va pouvoir dire, bah, vous avez consommé X kilowatts de chaleur, et donc ça vous coûtera X.
Cette détermination est liée donc à une quantité de bois. En fait, le particulier, ou du moins les collectivités ou des structures qui ont fait appel à vous, ne connaissent pas forcément la quantité de bois spécifique pour chacune.
À l'année, si on fait des estimations, évidemment, on estime, du coup, vu la taille de votre bâtiment, vu les usages qu'il y a à l'intérieur, on estime que, grosso modo, il va y avoir X tonnes de bois déchiqueté qui vont être consommées dans l'année.
En gros, ma question est de savoir, un kilowatt d'énergie au sortir de cette chaufferie équivaut à combien de quantité de bois? Est-ce que ça a été défini? Ça dépend des bois, peut-être?
Ouais, ça dépend, effectivement, ça dépend des installations. Il doit y avoir des ordres de grandeur, mais là, je suis désolée, je ne sais pas vous répondre précisément.
Ouais. Je revenais à cette question par rapport justement à cette crise énergétique qui a eu lieu au lendemain de l'invasion russe en Ukraine. Mm-hmm. Il y a eu une évaluation des tarifs, voire peut-être même un doublement du prix du bois en granulé. Oui. Est-ce que c'est aussi l'intérêt, peut-être, de votre activité à essayer de vous pallier à ce genre de problème d'augmentation subite?
Oui, en ayant cette réflexion effectivement sur un circuit court de l'énergie avec une filière bois où du coup il y a une plateforme de bois déchiqueté qui pourrait venir compléter les plateformes déjà existantes et de valoriser plutôt le bois déchiqueté, effectivement il y a une réflexion qui est faite aussi par rapport à l'idée de se détacher des jeux du marché de manière globale, et vous avez raison de citer le fait que en 2022-2023 le prix du kilo de granulé a beaucoup augmenté, oui, parce que la demande a beaucoup augmenté et qu'il y a eu des jeux après sur les marchés de vente de bois de granulé.
Il n'y a pas eu de spéculation à ce niveau-là?
Non, c'est la demande a beaucoup augmenté et beaucoup de personnes ont eu beaucoup plus besoin de granulé.
Je reviens un peu sur le propos de partenaires, notamment des structures telles que l'ADEME, qui est actuellement n'a pas les fleurs du gouvernement et de cette politique actuelle qui tend à tourner le dos à la transition écologique. Quel est votre avis sur cette perspective politique?
Effectivement, merci pour la question. C'est clair que depuis début 2025, les différentes décisions gouvernementales vont pas dans le sens de l'écologie de manière globale, et dans le secteur de l'énergie, il y a des vrais sujets qui se posent. Il y y a différents niveaux en fait. Tout d'abord sur la partie photovoltaïque, il y a eu une grosse mobilisation depuis le début de l'année pour dénoncer la baisse des prix de rachat des kilowattheures, parce que notamment pour des particuliers. Aujourd'hui, ça devient très très compliqué pour des particuliers de se dire « Allez, je vais faire installer des panneaux photovoltaïques sur ma toiture parce que c'est le prix de rachat a vraiment été beaucoup diminué de la part de l'État. » Donc beaucoup de gens hésitent aujourd'hui à investir maintenant en tant que particulier sur des panneaux photovoltaïques. On trouve que c'est vraiment un message pas bon du tout qui est envoyé par le gouvernement. Pour nous, c'est pareil, les modèles économiques sur le photovoltaïque, en fait, ils sont de plus en plus compliqués à tenir parce que on est un peu moins impacté par la baisse du prix de rachat de l'électricité, mais il n'empêche, en fait, ça nous amène à devoir vraiment réfléchir et consolider en fait la vente d'électricité en local, et c'est pour ça qu'on l'a évoqué un peu plus tôt. Pour nous, on était déjà convaincus que c'était un modèle vraiment intéressant parce que ça permettait de lier les gens à une partie de l'électricité qu'ils consomment, enfin voilà, et du coup ça fait sens à plein de niveaux. Là aujourd'hui ça fait encore plus sens parce que on sait que le plus on va vendre localement aux communes, aux personnes les kilowattheures qu'on produit avec les panneaux photovoltaïques qui sont en toiture, et le plus on est sûr du prix auquel on le vend puisque c'est nous qui le choisissons, et on essaye de le choisir le plus juste possible à la fois par rapport au coût de la production et évidemment pour qu'il reste accessible à un maximum de personnes ce prix là donc c'est vraiment un vrai sujet. On a aussi réfléchi justement pour éviter que beaucoup de particuliers renoncent à installer des panneaux photovoltaïques et à investir dans des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. On a travaillé du coup avec certains de nos sociétaires qui sont des installateurs photovoltaïques pour se dire mais comment, parce que eux ils sont aussi ces installateurs photovoltaïques, c'est des entreprises du territoire, ils sont directement impactés par ça, parce que si demain plus aucun particulier ne souhaite investir pour mettre des panneaux photovoltaïques sur ses toitures, et ça veut dire que potentiellement leur entreprise elle est vraiment fragilisée. Et donc du coup, on a travaillé, nous, en tant que coopérative, avec les installateurs pour dire comment la coopérative, elle peut appuyer, enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire, quoi. Et la réflexion, elle a abouti à ce qu'on appelle l'offre petit producteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des watts, elles s'engagent si un particulier se dit « Ah ben moi, j'avais prévu d'investir, mais aujourd'hui, mon taux de retour sur investissement, il est de 20 ans, donc autant dire que j'oublie. » Nous, on s'engage à racheter les kilowattheures à 9,5 centimes le particulier passe avec, travaille avec un installateur photovoltaïque local qui est sociétaire de DWatt. Du coup, l'idée là, elle est double. Elle est de se dire, pour nous, coopérative, on soutient notre entreprise sociétaire qui est installateur photovoltaïque, parce que du coup, ça aide le passage à l'acte des particuliers. Et puis, pareil, en termes de transition énergétique, en fait, il n'y a pas de petit geste. Donc du coup, si demain, tous les particuliers renoncent à investir, pour nous, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Donc si ça peut aider les gens à continuer à vraiment à passer à l'acte, cette offre petit producteur, on souhaite la mettre en avant aussi. Du coup, la distribution, c'est RTE, Réseau et Transport d'Électricité. On l'utilise, on estime que le réseau d'électricité, je vais utiliser des grands mots, mais c'est un bien commun. Et du coup, on a la possibilité de l'utiliser, justement, pour pouvoir revendre une partie de notre électricité en local. Donc, en fait, tout ça est très comptable. Physiquement, un électron, quand il est produit chez quelque part, donc dans une centrale nucléaire, dans une centrale à charbon, avec des panneaux photovoltaïques, avec une éolienne, en fait l'électron physiquement il va aller au plus proche du lieu de consommation, donc en fonction de où vous êtes, quand vous allumez l'interrupteur chez vous et que vous avez besoin de lumière, du coup vous appelez de la lumière et la lumière elle vient du site de production le plus proche, quel qu'il soit. Par contre, comptablement en fait nous on va savoir combien on produit de kilowattheures avec nos centrales photovoltaïques et on sait combien la commune de Die, le magasin Les Bons Passants, la brasserie après l'orage, les différents particuliers, etc., l'entreprise Nateva et tout ça, consomment d'électricité chez des watts. Et donc du coup, il va y avoir un jeu comptable qui permet de dire, on a produit tant, les clients de l'opération d'autoconsommation collective, ils ont consommé tant. Donc, on sait qu'en local, il y a tant de kilowattheures qui ont été consommées. Et c'est ça qui est important de savoir. Et ça, ça soutient vraiment un modèle de production renouvelable, local, citoyen, qui a vraiment du sens. Puisque aujourd'hui, 80, par exemple, sur notre opération qui est en pays d'Iwa, d'autoconsommation collective, 80% de la production sur les trois sites de production du pays d'Iwa qu'on a, qui nous permettent de vendre en local, 80% de cette production, elle est consommée en local. Donc c'est pas du tout anecdotique. Et pour les entreprises, les particuliers, les communes qui consomment une partie de leur électricité à des watts, ça représente environ 30% de leur consommation. Donc pareil, ça commence à être des choses qui parlent en termes de, d'ordre de grandeur, quoi.
Émilie Lapran, merci beaucoup. Vous-même, quelle est votre fonction au sein de DiWatt ?
Eh bien, merci à vous déjà. Et moi, je travaille sur la question de la mobilisation autour des questions d'énergie. Donc à la fois faire parler d'énergie, montrer les options qui existent pour ceux et celles qui ont envie d'agir.
J'invite les auditeurs aussi à se renseigner sur le site que vous avez cité, je le rappelle, DiWatt.fr. Je mettrai le lien sur la page de l'émission et je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, merci, à bientôt.
Au revoir.
Bye.